et médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Télévision Suisse,
Radio-Canada.
Et bonjour à tous, bienvenue dans la librairie francophone. Un voyage aujourd'hui aux alentours de l'île Maurice. On vous emmènera aux côtés de Dieu et dans les vignobles de France et d'ailleurs avec deux grands sommeliers. L'auteure mauricienne Natacha Apana publie un recueil de textes qui va vous faire voyager du côté de la Réunion, des Antilles ou encore de l'Inde, des réflexions sur la vie et une vaste analyse du monde. Nous parlerons de la foi à quelques jours de Noël avec un livre inattendu qui nous passionne mais aussi qui nous divise dans l'équipe. Franz-Olivier Gisbert confie ses croyances sans embâge. Bonjour Franz-Olivier.
Bonjour.
Gisbert. Comment allez-vous ?
Bien.
Bien. Vous avez rencontré Dieu dans trois situations différentes, à trois âges différents.
Ouais.
Si j'ai bien lu votre livre.
Ouais, ouais.
Dieu est partout, selon vous ?
Oui, bien sûr. Bien sûr, bah, le Dieu, c'est-à-dire la nature, comme disait Spinoza, hein, Deus aussi bien nature. Je suis catholique au départ. Hein. Ma foi est catholique.
Ouais.
Ma mère était catholique. Et j'étais catholique déjà dans le ventre de ma mère. Et puis, quand je suis sorti du ventre de ma mère, je suis devenu catholique parce que j'avais pas trop le choix. J'adorais ma mère m'adorait.
Ouais, ouais.
Et voilà, donc c'est quelque chose de très fusionnel.
Ouais.
Et puis après, quand je grandis, bah, ça s'ouvre. Ça s'ouvre, c'est-à-dire à mon catholicisme, à mon christianisme, j'ai ajouté plein d'autres fois et beaucoup de panthéisme.
On va en parler ensemble. Dieu est ici, dans ce studio, par exemple ?
Ah oui, il est partout.
Oui, c'est sûr.
Il est partout.
Très bien.
Il n'y a aucun problème.
Décryptage avec Franz-Olivier Gisbert tout à l'heure. Et puis, sans transition, encore que on pourrait, il sera question du vin, avec un livre absolument génial. Le meilleur sommelier du monde, Philippe Forbrach, et le double meilleur ouvrier de France, Antoine Pétrus, vont tout vous dire sur le vin pour vos repas de fête.
La librairie francophone... Emmanuel Kérad.
Et les libraires sont avec nous en multiplex. Nous allons d'ailleurs vous conseiller des livres pour Noël avec eux et aussi avec nos invités tout au long de l'émission. On verra ça ensemble. Au Canada, on retrouve Josiane Letourneau qui est libraire dans la librairie du Square à Montréal. Bonjour Josiane.
Bonjour Emmanuel.
Tout va bien pour vous ?
Ça va super.
Bien, Noël se prépare. Bonjour Dominique Bressou.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Boudry dans la librairie Une Petite Prose. Vous aussi en plein paquet cadeau, je suppose.
Bah oui.
Oui, comme Thomas Auxerre qui est en France, libraire à Puteau dans la librairie de l'Amandier.
C'est ça. Bonjour Emmanuel.
Vous faites des petits paquets.
À fond.
Très bien. Bonjour Déborah Damblon.
Bonjour Emmanuel.
Vous êtes libraire à Bruxelles dans la librairie La Licorne.
Et
ça marche fort.
Paquets.
Oui, et vous adorez faire les paquets. Ils en peuvent plus, les libraires, là. C'est la période, là. Dans 15 jours, on les retrouvera en meilleure forme. Bon, merci d'être avec nous tous les quatre. Bonjour Antoine Pétrus.
Bonjour, Emmanuel.
Nous parlerons de votre livre consacré au vin. Tout ce qui concerne le vin, c'est l'un des livres les plus réussis sur ce sujet, je vous le dis. Et pourtant, on en a fait dans cette émission. Mais là, franchement, chapeau, on en parlera, évidemment. On commence toujours cette émission par une histoire, une anecdote étonnante. Alors, de vin ou d'autre chose, comme vous voulez. Ça tombe sur vous.
Oui, c'est une anecdote autour du vin, forcément.
Oui.
Il y a une dizaine d'années, je rencontre un de mes amis proches qui est Christophe Fabet dans le Valais à Martigny, c'est une belle région montagneuse.
Oui.
Et après une belle dégustation matinale
en Suisse,
tout à fait. On alternait entre Arvigne, Amigne, Humagne, une vingtaine de crus. Il m'a dit une phrase très simple : je t'ai montré ce que je sais faire, maintenant tu vas ouvrir les portes de mon frigo et tu vas cuisiner. Donc c'était en plein mois de janvier, dans le frigo se côtoyaient des courges, des potirons, des beaux morceaux de lard épais, suisse, et je suis passé au fourneau, et la dégustation qui devait durer 2 heures a duré 10 heures sur la journée.
10 heures ?
Voilà.
Vous avez mangé et bu pendant 10 heures ?
On a tenté de cuisiner, enfin j'ai cuisiné au début, et ensuite ça s'en est suivi par une très belle dégustation qui a duré un peu plus longtemps.
C'est la grande bouffe.
C'était la grande et belle bouffe, ouais, tout à fait. Puis au mois de janvier, il faut prendre des forces.
Vous n'êtes pas mort à la fin comme dans le film.
Je suis toujours là.
Et Philippe Forbrach est à côté. Bonjour Philippe.
Bonjour Emmanuel.
Merci d'être avec nous. Vous avez cuisiné pendant 10 heures, vous ? Oui.
Je cuisine depuis très longtemps, ça fait 45 ans que je cuisine.
Oui, alors que si on cumule les heures.
Si on cumule les heures, ça fait pas mal. Mais c'est effectivement, on vit dans nos métiers. On sait quand ça commence, on sait jamais quand ça se termine.
C'est vrai.
On sait à peu près toujours comment ça se termine, c'est-à-dire que finalement, on a du plaisir, mais on est un peu fatigué des fois.
Antoine Pétrus et Philippe Forbrach sont dans la librairie francophone cette semaine. Bonjour Natacha Apana.
Bonjour Emmanuel.
Vous publiez Une année lumière aux éditions Gallimard, un recueil de chroniques écrites pour un journal français en 2017. C'est un exercice qui vous a poussé à parler de vous ?
Oui, étonnamment.
Je me suis toujours considérée comme étant une romancière. Ouais. Je trouve que dans ce travail de fiction, ce qui est le plus intéressant, c'est incarner un autre que soi, un homme. Ouais. D'abord, j'ai accepté cet exercice parce que je trouve que un journal qui ouvre ses pages, sa double page presque, à un écrivain chaque jour, c'est pas mal.
Ouais, c'est pas mal.
Moi, j'étais l'écrivain du jeudi et je me suis dit, je trouverai très certainement quelque chose à dire chaque semaine. Il y a tellement de choses qui se passent. Eh ben, en réalité, j'étais paralysée. Je me suis dit, pourquoi je parlerais comme tout le monde? Parce que tout le monde a quelque chose à dire, tout le monde a un commentaire à faire. Et je me sentais tellement peu savante, tellement ignorante en réalité, que j'ai fait un
pas de côté.
Un pas de côté, ouais, exactement. Ouais. J'ai commencé à parler de mon enfance, de mes grands-parents et de la langue.
Alors justement, il y a la langue dans ces textes. Il y a une chose qui vous a frappé et qui vous contrarie d'ailleurs, Natacha. C'est qu'on vous demande souvent pourquoi vous, la Mauricienne, vous avez choisi la langue française.
Oui, on n'arrête pas de me demander cela. Heureusement, on ne me demande plus si mes œuvres sont traduites en français. Mais on me dit pourquoi vous avez choisi le français. Avant, je me justifiais. Maintenant, non, je ne me justifie plus. Je dis, je crois qu'il y a tout ce qui est de l'ordre de la francophonie. J'ai toujours eu l'impression qu'il y avait francophone et francophone, et que moi, j'étais une francophone du bas. Francophone de deuxième ordre.
Alors que vous le dites d'ailleurs, vous écrivez, pourtant, c'est dans l'acceptation de l'évolution de sa langue, je crois, qu'un pays s'ouvre et se protège des extrémismes.
Mais oui, parce qu'une langue doit se mouvoir, doit bouger, doit évoluer pour rester vivant. Plus on est nombreux à la travailler, plus on est nombreux à la pétrir, ou je ne sais pas comment on dirait, encore mieux pour elle.
En s'enrichissant aussi des autres langues. Alors vous évoquez dans un texte votre grand-mère, qui était très fière de sa culture, de ses origines indiennes, et qui vous a appris sa langue, le télougou.
Oui. Oui, elle me parlait en télougou, elle me parlait aussi un petit peu en hindi et en une autre langue qui s'appelle le bhojpuri. Donc j'étais comme ça dans une grande maison où ma mère me parlait français, anglais et un peu créole, mon père anglais, ma grand-mère ces langues-là, mais j'adorais les langues indiennes. Ouais. Je ne les écrivais pas, donc c'était une langue...
Mais vous les comprenez ou pas ?
Oui, mais c'était des langues extrêmement aimantes pour moi.
Le télougou, on va l'écouter, on va écouter cette langue. Écoutez, vous allez me dire si vous comprenez parce que c'est très spécial.
పళ్ళను బాగా తోముకోవాలి. ఆహార పదార్థాలు పళ్ళలో ఇరుక్కుపోతాయి. శుభ్రపరచకుండా వదిలేస్తే పళ్ళు కుళ్ళిపోతాయి. మీరు నోరు తెరిచినప్పుడు దుర్వాసన రావడమే కాదు.
Alors, ça parle de quoi, Natacha Panna?
C'est
pour les enfants.
C'est pour les enfants.
C'est une initiation au brossage de dents en télougou.
Incroyable. Non, parce que, et je pense que cette chronique dit aussi mon chagrin parce que je suis une illettrée du télougou.
Ouais.
C'est-à-dire, dès qu'elle a arrêté de me parler dans cette langue-là, je l'ai oubliée. Parce que je ne l'ai jamais écrite. Donc, j'ai complètement oublié. Aujourd'hui, je sais dire bonjour un peu. Je sais dire je m'appelle Natacha. Mais c'est tout.
C'est quoi bonjour ?
Bonjour, c'est Namaskar.
Namaskar ?
Namaskar.
Ok. Dans une autre chronique, Natacha Panna, vous rendez hommage à l'île de la Réunion et au vivre ensemble, unique au monde, qui existe à la Réunion. Tous ceux qui sont allés à la Réunion un jour vous le diront, et nous avons fait des émissions là-bas avec mon collaborateur qui est en régie là, il le sait. Ce qui frappe immédiatement, c'est que quand on y arrive, on a une grande émotion à voir toutes les origines, toutes les confessions vivre ensemble, sans se juger, sans aucun rejet. Ça, c'est un modèle pour vous.
Oui, absolument. On parle toujours de ce qui ne va pas, de comment ce vivre ensemble a du mal à entrer dans une idée de la République, dans une idée de la laïcité. Mais quand on va à La Réunion, tout ça éclate.
Ouais, ouais.
Et notamment, ce qui est très frappant, c'est que quand on va à La Réunion, d'un point de vue physique, on n'est pas si dépaysé parce que la vie économique est presque la même qu'on pourrait trouver en métropole.
Il y a quelque chose de particulier.
Voilà,
vous dites, ces Français ont décidé de faire le choix de la réciprocité. Un effort, un dialogue permanent, c'est décidément une île qui porte bien son nom.
Oui, tout à fait.
De La Réunion, on va partir en Guadeloupe, à Marie-Galante, très exactement. J'ai une petite surprise pour vous, Natacha Panna. Dans votre livre, vous parlez de la poésie. Vous citez deux fois un poème de Guy Tyrolien, Prière d'un petit enfant nègre, qui est très important pour vous. Vous allez nous expliquer. Il y a quelques mois, nous étions à Marie-Galante pour rencontrer la veuve de Guy Tyrolien, Thérèse Tyrolien. Elle avait lu un extrait justement de ce long poème dans sa maison qui surplombe la baie de Marie-Galante. Imaginez le soleil, une nappe colorée, une grande maison blanche dans la végétation luxuriante, et Thérèse Tyrolien qui lit ce poème emblématique qui vous a bouleversé toute votre vie, et c'est l'une des références de la culture antillaise.
Seigneur, je suis très fatiguée. Je suis née fatiguée. Et j'ai beaucoup marché depuis le chant du coq. Et le morne est bien haut qui mène à leur école. Seigneur, je ne veux plus aller à leur école. Faites, je vous en prie, que je n'y aille plus. Je veux suivre mon père dans les ravines fraîches, quand la nuit flotte encore dans le mystère des bois, où glissent les esprits que l'aube vient chasser. Je veux aller pieds nus par les rouges sentiers que cuisent les flammes de midi. Je veux dormir ma sieste au pied des lourds manguiers. Je veux me réveiller lorsque là-bas mugit la sirène des Blancs. Mon mari était vraiment, je pense, un humaniste avant tout. Et il avait confiance en l'homme. Et voilà, donc c'est un monde nouveau, c'est un monde qui a un avenir certain. Mon mari avait croyait fortement, et voilà.
Le poème de Guy Tyrolien, lu par Thérèse Tyrolien dans sa maison de Marie-Galante. Vous êtes très émue, Natacha Apana.
Oui, merci.
Vous le connaissez par cœur, le poème.
Oui,
je
le connais par cœur. Merci pour ces très beaux cadeaux.
Pourquoi c'est important pour vous ?
Parce que il faut imaginer la petite fille que j'étais, qui adorait lire, mais qui connaît le monde par les classiques de la littérature française et de la littérature britannique. Jane Eyre, Charlotte Bronte, Shakespeare, ensuite Camus, voilà. Et quand je rencontre ce poème, je me dis, ah, mais on peut écrire sur des choses que je vois tous les jours.
Ouais.
On peut écrire sur mon histoire, on peut dire des choses sur un enfant qui ne va pas à l'école. J'avais l'impression que il faut aller très très loin pour dire des choses intelligentes et belles. Et pour ça, j'aime ce poème.
Bon, on va laisser la place à nos libraires, Natacha Apana. L'émotion n'est pas
Merci.
Terminée. La France, la Suisse et la Belgique. On commence par qui, Natacha ?
La Suisse.
La Suisse, allez, allons-y. Dominique Bressoux, c'est à vous.
Oui, alors moi, quand j'ai commencé ces chroniques, je me suis dit que ce serait amusant d'en faire aussi, en fait. Parce que ça avait l'air plutôt facile.
Oui.
Mais en fait, votre écriture, Natacha Apana, elle est tellement fine, les mots choisis, avec un tel soin, que c'est un vrai travail d'écrivain. Et en particulier, ça m'a frappé la dernière phrase de chaque chronique, qui est un vrai plaisir, un peu comme une chute pour une nouvelle. En fait, dans vos chroniques, on le rythme avec la poésie en plus.
Thomas Auxerre, pour la France, êtes-vous d'accord ?
Alors oui, je suis d'accord. C'est vrai que votre livre de chronique m'a beaucoup plu. J'ai pris plaisir à vous découvrir en dehors de vos romans. On rentre dans chaque texte immédiatement, et puis il s'en dégage de la poésie, de la réflexion, et puis aussi une certaine tendresse. Tout ça avec bienveillance et une sorte de force douce, d'ailleurs dont on entend aussi, enfin moi j'entends quand vous parlez. Moi j'ai beaucoup apprécié, je recommande vraiment chaudement votre recueil.
Déborah Damblon pour la Belgique,
ben
carton
oui,
plein
suis...
ou pas ?
Bah oui, ouais. Je suis d'accord, évidemment, évidemment. Madame Apalin, vous avez un talent pour camper les situations en très très peu de phrases et puis vous faites jaillir des images. Et du coup, bah, vous nous offrez chaque fois un joli voyage et une émotion renouvelée. Et puis, je trouve que vous donnez le juste poids aux choses et toute la nuance qu'elles méritent pour aborder en finesse les situations, quelles qu'elles soient. Et c'est délicieux.
Bon, Natacha, tout se passe bien.
Très bien.
Elle est au bord des larmes, Natacha. Bon, un petit souvenir émouvant aussi pour vous. Je suis désolé, hein, mais on va jusqu'au bout. Pour terminer, avec un souvenir de voyage dans ce livre, il y a cette lecture et cette anecdote à Bamako, avec des lycéens sous un manguier. Vous vous souvenez de cette histoire que
oui,
vous racontez ?
Bien sûr.
Ils vous offrent une glace. Sauf qu'à Bamako, quand on arrive
La première chose
France,
qu'on vous dit... Ne mangez pas de glace, ne buvez pas d'eau. Et là, je suis tombée en amitié avec ces lycéens et ils m'achètent cette glace. Et j'ai un moment d'hésitation. Je la mange ou pas? Et ils me disent, mais tu sais pas manger des glaces dans ton pays, toi? Et voilà. Je trouve, c'était... Et
vous avez été malade ou pas?
Non.
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 Vous voyez comme ça.
C'est dans la tête.
C'est dans la tête.
Hein. C'est dans la tête.
Ouais. Bon, merci beaucoup, Natacha Apana, d'être venue dans la librairie francophone.
Et merci pour ces moments. C'est
son du
précieux.
Monde. C'est précieux pour nous aussi. Votre recueil de textes, Une année lumière, est paru chez Gallimard. Quel livre allez-vous offrir à Noël, Natacha?
Ah oui. Alors moi, je vais choisir, c'est un des plus beaux livres que j'ai lu cette année. C'est une auteure autrichienne qui est décédée en 1970, elle s'appelle Marlène Haushofer. Son livre, c'est Le mur invisible. C'est une femme qui se réveille le matin dans un chalet. Elle était avec des amis. Ses amis sont partis prendre un verre le soir. Et elle se réveille, il n'y a plus personne. Et autour du chalet, il y a un mur invisible. Et tel le Robinson, elle va vivre. Et c'est son journal qu'on lit.
Bien, c'est presque de la science-fiction.
Ce n'en est pas, parce qu'elle parle de la terre, elle parle des animaux, elle parle d'elle.
Le nom de l'auteur?
Le mur invisible, pardon, Marlène Haushofer.
Merci,
le prononce très mal.
Natacha. À suivre, de grands sommeliers pour parler du vin autour d'un livre référence. Un livre génial, le meilleur que j'ai vu sur ce sujet, qui va tout vous expliquer sur le vin. Et voici à présent un artiste du Québec qui fait beaucoup parler de lui en ce moment. Hubert Lenoir a 24 ans. Il a décroché 3 Félix au 40e gala organisé à Montréal. Et il commence à se faire un nom en Europe. On écoute un extrait de son premier album dans la librairie francophone, avec ce titre, Fille de personne. Sensation venue du Québec, Hubert Lenoir, c'est tout nouveau, Fille de personne, c'est le titre, sur la RTS, la RTBF, ici Radio-Canada et sur France Inter.
Les médias francophones publics.
Radio France,
RTBF,
Radio-Canada,
Radio-Télévision Suisse.
La librairie francophone, Emmanuel Queyrade.
On a demandé cette semaine à nos libraires de vous conseiller des livres à offrir pour Noël. Dans toutes les catégories, on commence dans le rayon des bandes dessinées avec Déborah Damblon en Belgique. Que conseillez-vous, Déborah ?
Nerval l'inconsolé, la vie de Gérard de Nerval, parce qu'on connaît son nom, on connaît parfois son œuvre, mais on connaît plus rarement sa vie. Ouais. Et son existence, elle est terrible, romanesque, à défaut d'être joyeuse, je vous l'accorde.
Bah ouais, ça donne
et bien
pas
les
envie,
auteurs...
Hein.
Ah, mais si, c'est magnifique, c'est magnifique. Et puis, c'est passionnant, ne riez pas Emmanuel, c'est passionnant de voir le génie qui se niche dans un esprit à la dérive. D'accord. Et vraiment, je le recommande pour le fond, pour la forme, pour tout.
Avec David Van Dermelen au scénario, qui est un formidable auteur, et les dessins de Daniel Casanave aux éditions Casterman. Merci Déborah. Dans le rayon des bandes dessinées, il y a aussi Spirou, l'espoir malgré tout. C'est la suite du journal d'un ingénu. C'est un petit chef-d'œuvre signé Émile Bravo qui reprend Spirou. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très réussi. Et c'est aux éditions Dupuis. Dans le rayon des livres pour la jeunesse, Thomas Hausser, qu'allez-vous offrir en France ?
Alors moi, je vais mettre sous le pied du sapin « J'en rêvais depuis longtemps ». C'est un album dessiné et écrit par Olivier Talec chez Actes Sud Junior. Moi, c'est vraiment un de mes albums préférés de cette année. C'est original et drôle. Il faut imaginer qu'à Noël, on offre un enfant à un petit chien.
Alors, surtout bah oui, pas faire ça.
On inverse les rôles, du coup. On inverse les rôles. Alors, le petit chien est très heureux, mais il se dit, bah voilà, c'est pas si facile de s'occuper d'un petit garçon. Faut le brosser, faut le sortir, faut pas qu'il s'ennuie. Donc, évidemment, il va prendre de plus en plus sur le place sur le canapé. Il va grandir, ça va devenir un ado. Et puis, en plus, il mange ni de croquettes et puis il mange pas par terre non plus.
D'accord.
Donc, c'est vraiment le livre à mettre sous le sapin. Ouais. C'est drôle pour les petits et surtout aussi pour les grands qui lisent les histoires aux petits.
J'en rêvais depuis longtemps, aux éditions Actes Sud de Junior. Merci Thomas. En Suisse, un petit livre de poche pour toutes les bourses avec tous les jeux de mots qui vont bien. Dominique Bressou.
Absolument, c'est les Chroniques gourmandes de Maxime Pietri aux éditions Zoé. C'est Noël, bah c'est le vrai moment de l'année hein, pour se laisser aller à la gourmandise. Et c'est aussi le moment de déguster ces chroniques aux titres savoureux du genre La gloire des cornichons ou Parlez-moi d'amour et de frites. Et c'est absolument délicieux, ça donne envie de se mettre au fourneau, c'est génial.
Chronique gourmande aux éditions Zoé Poche. Merci Dominique, au Canada, un bon roman sous le sapin avec vous, Josiane Letourneau.
Oui, l'ivresse du jour 1 de Shanti Van Doon. C'est le livre du premier jour de la vie, de tout ce qu'il précède et tout ce qu'il suit. C'est un livre blanc comme un premier jour de neige et qui raconte tout ce qui se cache dans le cœur, la tête, le corps et le regard de la mère. Un premier roman de l'autrice chez Le Mec éditeur, c'est ce que je vous offrirai moi pour Noël.
Merci Josiane. Et un autre conseil, ce sont les radioscopies de Jacques Chancel qui sortent en livre avec un CD qui accompagne des grands entretiens qui sont dans ce livre avec Brigitte Bardot notamment, Jean d'Ormesson, Roger Vadim ou encore François Truffaut. C'est très bien réalisé et c'est aux éditions du Sous-Sol.
Belle robe vermeille, bel éclat.
La librairie francophone.
Le vin, c'est la terre. Le vin, c'est aussi le soleil.
Emmanuel Quérad.
Antoine Pétrus et Philippe Forbrac sont dans la librairie francophone pour un livre très complet sur le vin. Vous avez tous reconnu le film.
La Lue la cuisse.
Exactement, avec et Louis de Funès.
Léoville Lascaz, 1953.
Oui, c'est vrai, le vin, c'est ça. Bon, c'est le livre quasi parfait sur le sujet. Hein. Vraiment, Antoine, c'est aux éditions OPA. Philippe Forbrac, vous avez obtenu le titre de meilleur sommelier du monde en 1992. Vous signez une préface dans ce livre. Mm-hmm. Antoine Pétrus, vous êtes l'auteur de cet ouvrage. Et depuis 2002, vous enchaînez les expériences et collaborations auprès des plus grands chefs cuisiniers, les plus grands restaurants, les plus grands hôtels. C'est la curiosité qui fait le sommelier ?
Oui, parce que c'est une remise en question permanente et perpétuelle, à la fois au sein du vignoble, dans nos salles de restaurant auprès de nos convives, et puis auprès de l'assiette pour la notion d'accord mets et vins, qui est quelque chose qui nous est très propre et très cher.
Rendre les gens heureux, hein, c'est ça Philippe Forbrac, votre métier.
Diffuser des bonheurs, avec quelques arguments, puisqu'effectivement, Antoine le disait, la curiosité, l'ouverture d'esprit, le transfert, non pas de technologie, mais d'information, des passeurs de rêves, des capteurs de sensations, et ensuite des passeurs de rêves, effectivement, pour les gens qui viennent nous voir. Donc on a de la bienveillance nécessaire, la compréhension, c'est très important aussi pour nous d'être à l'écoute des gens.
Oui.
Parce que les mêmes personnes, ou les personnes différentes plutôt, vont pas aimer nécessairement le même vin, parce qu'il y a plein de situations différentes, il y a plein de ressentis différents. C'est de sentir les choses au bon moment.
Et le bon vin, alors vous posez cette question hein, d'ailleurs Antoine Pétrus, un grand vin, un bon vin, c'est pas forcément celui qu'on croit, c'est pas forcément le vin très cher, vous l'expliquez dans le livre.
Oui, c'est celui qui émeut, c'est celui qui touche profondément, qui ressource, qui réunit, parce que le vin c'est aussi facteur de plaisir, d'unisson. On a en souvenir les déjeuners du dimanche midi en famille avec le très beau flacon. C'est aussi celui qui fait appel aux souvenirs au moment que Philippe et moi passons aussi dans le vignoble tous les mois, voire toutes les semaines auprès des vignerons, des vigneronnes, de celles et ceux qui nous font rêver.
Vous accordez par exemple le saumon avec du vin rosé. Et vous dites qu'il y a un accord visuel. Vous distinguez accord visuel et accord d'opposition.
Qu'est-ce que c'est ça ? L'accord visuel, en fait, c'est de rester sur les mêmes teintes. Et en fait, sur le saumon, il y a un cru que Philippe et moi aimons beaucoup en Provence, qui est le Château Simone.
Ah oui, magnifique.
Toute petite appellation à palette.
Ouais, formidable.
Et goûter un Château Simone
à côté d'Aix.
À côté d'Aix, avec un tout petit peu d'âge.
Un
sur
peu cher.
Un saumon,
hein, un peu cher, mais...
Il y a une certaine rareté. Après,
c'est pour,
il y a
pour le dimanche.
Voilà. Ouais. Il y a des caractères d'exception. Après, il y a de très beaux rosés en Provence accessibles.
Ouais. Exactement. Pour votre vin, pour les fêtes, Philippe Forbrac, ce sera un Côte Rôti, si je suis bien informé. Vous adorez le Côte Rôti, un vin de la vallée du Rhône.
C'est vrai que pour les fêtes, je sers volontiers. Pas que pour les fêtes d'ailleurs, parce que quand il y a un grand moment dans ma vie, j'ouvre un Côte Rôti en général. C'est un vin rouge de la vallée du Rhône, dans la partie septentrionale, sur lequel j'ai souvent plaisir à. Justement, à avoir du plaisir et à le partager. C'est un vin qui allie à la fois la densité, la puissance, mais en même temps l'élégance et la générosité. Donc c'est un vin finalement qui se caractérise par le bonheur juste de la dégustation et le souvenir qu'il procure.
Mais vous qui êtes né à Marseille avec un grand-père vigneron dans le Var,
c'est vrai.
Pas de bandole, pas de cassis.
Si, ouais. il y a d'autres moments, il n'y a pas que les fêtes. Et puis les fêtes, on a parlé là du centre du repas, mais on habille nous les choses. Donc en entrée, un vin blanc de cassis, c'est juste extraordinaire. Ouais. Pourquoi pas un Côte Rôti sur un joli plat principal. Et puis si on a encore une petite soif, comme on dit, un bandole rouge, parce que les bandoles, on parle beaucoup de rosé, il y a un peu de blanc, mais les
c'est
rouges
surtout un rouge.
Exactement. Et de garde.
Le meilleur bandole est un bandole rouge, d'ailleurs.
Exactement. Ouais. Et le Mourvèdre, qui donne des résultats merveilleux sur ce vignoble-là, donne des vins de garde de façon extraordinaire. 15 ans, 20 ans, c'est pas un souci pour ce genre de vin.
Restons sur les bandoles, avec un bandole blanc, avec un bar en croûte de sel, un loup pour la Méditerranée, Antoine Pétrus. Oui. Vous faites des accords comme ça dans le livre. Un haut médoc, c'est formidable. Le haut médoc quand c'est bien fait, avec une belle entrecôte. Franz-Olivier Gisbert va nous tuer.
J'essaie de me contenir.
J'essaie de me contenir. Que le haut médoc, c'est...
Je prends le haut médoc, c'est pas bien.
Un chablis avec une sole meunière, ça aussi, un bon chablis avec une belle sole poêlée dans de l'huile d'olive avec un peu de beurre pour que ça croustique, ça roussisse un petit peu, c'est merveilleux ça.
Oui, c'est des grands moments de bonheur, des grands moments de simplicité aussi, et puis c'est de rapprocher... deux grands produits ensemble, un vin d'une origine et d'un terroir noble, et puis le produit, vous parliez de la sole épaisse, dorée, meunière, au beurre demi-sel, c'est toujours des moments de plaisir très intenses.
Avec de la fleur de sel et c'est tout.
Juste au moment.
Ouais, juste vraiment. Le charme du Chablis, parlons-en, parce que c'est un vin sec, aromatique, légèrement boisé, c'est absolument sublime comme vin, ça fonctionne aussi avec le dos de cabillaud, vous le dites dans le livre, il y a plein d'associations pour les fêtes avec le Chablis qui sont possibles.
Oui, c'est
d'abord... Mais c'est pas un vin très très cher.
C'est pas un vin très cher, c'est un vin qui pour nous est très proche aussi de Paris pour aller se rendre dans le vignoble. Et puis, c'est un des grands terroirs mythiques pour le chardonnay. Donc, des vins très épurés, délicats, aériens. Et puis, en finale, avec cette note toujours légèrement saline qui vient jouer avec les papilles. Donc, ça donne envie de passer à table.
Vous proposez le Rouget avec un Côte du Rhône rouge.
Oui.
Philippe Forbrac, meilleur sommelier du monde.
Ça fonctionne.
Des vins rouges avec le poisson.
Oui, mais le Côte couleur dont on parlait tout à l'heure fonctionne bien. C'est vrai que le Rouget, c'est un poisson d'abord de caractère. Ensuite, il y a effectivement cette peau et cette chair qui est très colorée. Et beaucoup de saveurs. Et si on rajoute en plus un petit peu de tapenade, en tout cas une petite pointe d'olive noire dessus, le mariage est d'autant plus flagrant parce que ce sont des arômes qu'on va retrouver également dans le vin. Il faudra par contre choisir un Côte du Rhône pas trop vieux pour éviter le côté tertiaire,
un peu léger,
plutôt tendre effectivement, et aussi faire attention à la température de service.
Alors ça c'est très important.
Exactement.
Ça c'est dans le livre, c'est fondamental.
C'est
la façon dont on sait la clé. C'est qu'on a tendance par exemple à frapper les vins blancs, c'est-à-dire les servir glacés, et c'est une erreur absolue. Le champagne à la limite parce que ça permet de dynamiser l'effervescence, mais pas le vin blanc.
Mais c'est dommage. Les champagnes, franchement, il y en a certains qui sont à température de cave juste extraordinaire.
Écoutez,
un vieux champagne millésimé base de pinot noir, par exemple, il vaut mieux le servir à 12 degrés qu'à 5 degrés.
C'est ça.
Clairement. Ouais. Mais effectivement, la température d'un vin, c'est un peu comme la température d'un plat pour un cuisinier. Si vous mangez une viande ou des légumes chauds ou froids, etc., ça n'a pas la même saveur, ça n'est pas le même message qui passe.
On va aller voir nos libraires, si vous le voulez bien, Antoine Pétrus et Philippe Forbrac, avec au Canada, Josiane Letourneau. Il y a de très bons vins au Québec maintenant, des vins blancs notamment, qui sont pas si mal. Mais elle a plongé dans votre livre. Josiane, qu'est-ce que vous en pensez alors ?
Bon, je dois avouer, ma connaissance du vin se résume strictement à une expérience gustative. Alors, j'ai été épatée par le lot d'informations que ce livre contient. C'est clairement un livre qui s'adresse aux véritables passionnés, à ceux qui veulent aller plus loin que le guide des meilleurs vins à moins de 20 $, mettons. J'ai beaucoup apprécié la présentation classique, voire chic. Bref, c'est un beau livre à offrir à ceux et celles qui veulent vraiment approfondir leur savoir.
La Suisse avec Dominique Bressoux et les formidables vins du Valais. On va en toucher deux mots avec Antoine dans un instant. Vous avez adoré ce livre aussi.
Ah oui. Alors moi, j'ai toujours eu l'impression que les connaisseurs en vin, ou soi-disant tels, noyaient le bonheur de ce divin breuvage sous des avalanches de termes techniques à peu près incompréhensibles. Mais là, vraiment, c'est la bonne surprise parce qu'on comprend tout. Jusqu'à ce qu'il faut faire quand un bouchon décide de faire le grand plongeon. Mais le livre est très beau, très aéré, c'est absolument magnifique. C'est vraiment une superbe découverte.
Absolument génial. C'est vrai, ça fait trois fois que je le dis, mais c'est vrai. Les vins du Valais, alors Antoine, vous avez travaillé, vous, avec des vignerons du Valais. Mmh. Il y a de très bons vins en Suisse.
Tout à fait, il y a de très bons vins, il y a une grande diversité. Après, les Suisses sont très gourmands et très passionnés de leur vin. Donc, il y a 98% de la production qui est dégustée sur place. Oui. Et en fait, j'ai fait une rencontre moi qui a changé ma vie, qui est Christophe Abbé, dont je vous reparlais, dans le Valais, à Martigny, ce fameux vigneron avec qui j'ai passé 2 heures plus 8 heures. Et un peu comme Philippe, un jour, il m'a proposé de passer, je dirais, pas de l'autre côté de la barrière, mais de la barrique, et de faire du vin avec lui. Parce que Philippe est aussi vigneron. Et pour nous, c'est une forme d'aboutissement et de cheminement. Donc c'est une affection très forte pour la Suisse et encore plus pour le Valais.
Et des vins belges. Alors ça, c'est plus inattendu.
Alors,
vous êtes malin parce que vous dressez une liste des bières.
Oui.
Rien à voir avec le vin. On se dit, mais qu'est-ce qu'elle fait là, cette page-là? Et vous avez vos coups de cœur de bière.
Voilà, tout à fait.
Mais il y a du vin en Belgique qui est de mieux en mieux, d'après vous.
Oui, dans ces terroirs, parce qu'on est sur des terroirs très septentrionaux, calcaires comme les grands vins de Champagne et de Bourgogne. Donc c'est des toutes petites productions, c'est des domaines en plus familiaux, 8-10 hectares, avec à la fois des cépages français, des cépages un peu plus autochtones. Et puis pour les bières font aussi partie, je dirais, du champ de travail du sommelier, parce qu'on s'intéresse à tout ce qui va être liquide.
Ouais.
Ça va partir de l'eau, de la bière, des spiritueux, des cafés,
le thé aussi.
Il y a une inclusion sur les cigares, sur les vinaigres également, donc elles ont leur place dans l'ouvrage et pour les accords mets et vins.
Alors vous donnez plein de conseils. On sert le vin dans un verre le plus fin possible, par exemple. Pourquoi un verre fin, à bord fin?
C'est pour la perception, en fait. C'est le contact entre le verre, les lèvres et le vin. Et plus il va être fin, plus il y aura une meilleure, je dirais, compréhension, lisibilité, puis une forme d'élégance qui est toujours important et agréable à table.
Philippe Forbrach, carafe ou pas carafe? C'est la grande question. Faut-il acheter une carafe pour carafer le vin ou pas?
Alors, faut acheter une carafe, oui. Il faut pas toujours s'en servir, parce qu'effectivement, il y a des vins qui méritent d'être carafés. Un vin jeune qui est encore sur la réserve, il faut pas hésiter à l'oxygéner un petit peu. Là, on parle vraiment de carafage. Mm-hmm. Et puis, quand on sert des vieux millésimes, ça arrive, dans sa cave, on vous le souhaite d'avoir quelques vieilles bouteilles encore intéressantes, il faut les décanter, c'est-à-dire qu'il faut supprimer ou évacuer le dépôt de la partie la plus limpide du vin. Mm-hmm. Et là, la carafe a son utilité.
Bon, doit-on enlever la collerette en aluminium placée sur le goulot avant d'ouvrir la bouteille? Alors, on voit ça parfois, on va au restaurant, puis il y a le serveur qui enlève la collerette, carrément.
Non, c'est pas très élégant d'enlever la collerette.
Bah non.
On peut la découper soigneusement lorsqu'on carafe le vin, ça permet de mieux visualiser le passage du vin, j'allais dire, du goulot à la carafe. Sinon, nous, on coupe juste en dessous de la bague. Ça, c'est l'endroit idéal pour des...
En dessous
de la bague, pas au-dessus ni au milieu. En dessous, parce qu'en dessous, il y a un guide, c'est propre. Et ensuite, quand on verse le vin... si c'est en dessous, il y a le bourrelet de la bague qui fait obstacle, donc il n'y a jamais de contact entre le vin et la partie métallique.
Il ne faut pas qu'il y ait de contact
Exactement,
entre le vin et le
métal. Il faut éviter vraiment.
Allez, un vin de Noël pour l'apéro. Tous les trois. Tiens, François Vigisbert, réfléchissez. Antoine Petrus, vin de Noël pour l'apéro.
Antoine.
Gigondas.
Vaqueras.
Vaqueras, Gigondas, vin de la vallée du Rhône aussi. Antoine.
Arvin, si je devais rester chauvin et parler des vins suisses, sinon un très beau muscadet en ouverture de repas et quelques huîtres, c'est un moment de bonheur privilégié.
Très bien, Philippe Forbrach, toute la pression est sur vous.
N'est-ce pas? Un blanc corse de patrimoine.
Exactement, ou un Clos Capitaux, vous
ou
connaissez?
Un Clos Capitaux sur Ajaccio,
oui.
De côté de Pidiatella,
oui.
À côté de Corot, c'est pas mal aussi. Mais je préfère quand même en blanc pour l'apéro, effectivement, plutôt le terroir de patrimonio avec sa dimension calcaire.
Vous êtes parfait. Le livre est parfait, vous êtes parfait. Et ce livre, donc, c'est Le Vin, paru chez EPA. Une petite idée cadeau, vite fait.
Petite idée cadeau, c'est Passage en cuisine avec l'ouvrage majeur de Jacques Maximin, qui est comme Philippe et moi-même meilleur ouvrier de France, mais en cuisine, en 1979. On l'a qualifié de chef-d'œuvre vivant. C'est un bel ouvrage synthétique où Jacques parle en fait de 60 légumes du moment à cuisiner. C'est une cuisine que l'on peut faire à la maison en cocotte, un morceau d'huile d'olive et le légume qui rôtit à l'intérieur.
C'est chez quel éditeur ?
C'est chez Albin Michel.
Bien. Philippe Forbrac.
Coup de cœur pour un de nos confrères sommeliers, Philippe Bourguignon, qui vient de commettre un livre génial qui s'appelle Sommelier à mots choisis. C'est chez Glénat, c'est un livre de souvenirs dans lequel il raconte effectivement plein, une multitude d'anecdotes en 50 ans de carrière et de métier, l'évolution du métier, les souvenirs avec des clients, les souvenirs avec ses confrères. C'est croustillant, c'est Bernard Pivot qui a fait la préface.
Et puis, chez EPA, on va rester chez EPA. Il y a deux livres sur la musique absolument géniaux. Là aussi, EPA, félicitations pour les fêtes parce que les livres sont dingues cette année. Michael Jackson, la totale, les 263 chansons et 41 clips expliqués. Ça avait été fait pour les Rolling Stones et les Beatles. C'est la même chose. Il y a des photos absolument extraordinaires, des documents inédits, pas seulement les paroles des chansons. Et il y a toute une histoire à chaque fois pour chaque titre. Et puis, imagine John Yoko, toujours chez EPA, avec toute l'histoire, évidemment, de John Lennon et de Yoko Ono. Les textes des chansons, les photographies dans les coulisses, les enregistrements aussi dans les fameux studios mythiques d'Abbey Road notamment. C'est génial. Voilà, merci beaucoup. À suivre Franz-Olivier Gisbert, Le Croyant, pour un livre sur Dieu, la nature et les hommes. Père Gisbert est dans la librairie francophone cette semaine. Ça va, père ?
Ouais,
mon père,
ouais, ça va. Ouais, ouais.
Allons-y, on vous met dans l'ambiance le nouveau titre posthume d'Alain Bachung et un titre signé Dominique
A. J'adore.
Voici ça. Immortel. Joyeux Noël à tous.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Pourquoi es-tu parti avant que je te l'apprenne? Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cachaient sous les faces avinées? Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on dit. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu étais plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Alain Bachung, immortel sur votre radio francophone.
La librairie francophone, une émission coproduite par les médias francophones publics.
RTS La Première.
Ici Radio-Canada Première.
RTBF La Première.
France Inter.
Franz-Olivier Gisbert, vous avez donc publié un récit très personnel et en même temps passionnant. Et franchement, vu le sujet, c'était pas gagné, je dirais. La dernière fois que j'ai rencontré Dieu, raconte votre foi et analyse l'antispécisme ou encore raconte la vie de grands philosophes qui ont bousculé les croyances, comme Giordano Bruno, qui est votre héros.
Ouais,
Bien sûr. C'est quelqu'un... bon, c'est un hérétique. Hein. Moi, je vous disais tout à l'heure, j'étais catholique. C'est vrai qu'au Moyen-Âge, j'aurais été hérétique et brûlé depuis longtemps. Mmh. Et ce que j'aime chez Giordano Bruno, c'est l'incroyable intuition. C'est-à-dire ce personnage, hein, il y a plusieurs siècles qui nous dit, voilà, il y a des mondes. Il y a des mondes, et c'est un peu pour ça qu'il était brûlé, ouais. Notamment, parce qu'il y avait d'autres raisons aussi, mais il nous dit, il y a d'autres mondes vivants. Quand on sait aujourd'hui qu'il y a des milliards d'exoplanètes, et que selon la loi des probabilités, il y a certainement une exoplanète, certainement plusieurs, où il y a de la vie, où je sais pas à quel stade de l'évolution elle est, cette vie, mais il y a de la vie.
Mais surtout, il disait, Dieu est partout.
Dieu c'est est partout, vous bien intéresse. Entendu.
Dans mais la aussi, nature, partout, mais aussi, dans le cosmos.
Oui, mais aussi, il y a de la vie partout. Ouais. Il y a de la vie partout. Regardons ce cosmos, il y a de la vie partout. C'est ça qui nous explique tout au long de son œuvre.
Et il a sa statue en Italie, sur la place où il a été attaché à un poteau nu, brûlé vif, la langue clouée à un morceau de bois.
Pour qu'il parle pas.
Pour éviter, voilà, de dire des choses avant de mourir.
Et en fait, lui, il a recherché le sacrifice d'une certaine manière parce que, il a résisté aux inquisiteurs. Il a été exclu pratiquement par tout le monde, c'est-à-dire les protestants n'en ont pas voulu, les calvinistes, enfin tout le monde. Et puis à la fin, il est tombé dans un piège, et là il s'est retrouvé à Rome, et ça a été très long d'ailleurs.
Vous dites avoir rencontré Dieu lors de votre enfance, Franz-Olivier Gisbert, notamment en France, au bord de la Seine, quand vous avez 5 ans.
Bon, attention, ça c'est la première rencontre dont je me souviens, parce
Il y en a eu d'autres.
Petit, forcément vers 3-4 ans, j'imagine. Enfin, vous savez, c'est des petits moments d'extase. Attention, je suis pas Bernadette Soubirous. Je n'ai vu personne apparaître, ni le petit Jésus, ni la Sainte Vierge.
Non.
C'est une sorte d'excitation, de griserie, une forme d'extase d'une certaine manière. Et j'ai ça de temps en temps, comme beaucoup de croyants. Je vois que ce livre parle à des tas de gens, parce que c'est la première fois que je reçois peut-être autant de lettres pour un livre, parce que je vois que ça leur parle et qu'ils ressentent les mêmes chose. Vous voyez, et moi d'ailleurs, je me sens partout dans toutes les religions. J'ai pas de problème par rapport à ça. J'ai pas de problème par rapport aux religions.
Non, mais vous allez tellement loin que finalement, on peut en rire avec vous sans aucun problème.
Ah oui, bien sûr, il y a pas de problème. Parce que dans un livre comme ça, non, quand vous mettez à nu là-dessus, il y a plus de dignité qui reste. Il y a plus de dignité. J'accepte qu'on rigole de ça parce que finalement, la foi, c'est souvent le retour en enfance. C'est pour moi qui le disais, c'était Julien Green.
Vous en riez vous aussi parce qu'un jour, vous êtes dans le désert. Alors là, vous êtes plus âgé, vous avez 18-19 ans.
Un peu plus,
avec votre conquête de l'époque. Vous ressentez une secousse qui vous fait tomber, elle vous demande si tout va bien, vous lui dites oui, tout va bien, c'est juste Dieu, et elle vous quitte.
Oui, enfin, elle se dit, peut-être pas tort, je vais pas rester avec ce barge, quoi.
C'est vrai.
Oui, mais c'est ça, c'était juste.
Mais c'est vraiment une apparition.
Exactement comme ça. Non, c'est pas des apparitions.
Mais qu'est-ce que vous avez ressenti, dites-nous.
Eh ben, c'est quelque chose qui passe. Moi, je dis quand on est croyant, comme plein de croyants, mais vous avez ça chez des grands catholiques qui l'ont écrit. On se sent en permanence accompagné. Et c'est vrai que j'ai ça. Et puis, c'est vrai que moi j'avais envie de chanter l'empathie,
l'amour, la joie,
vous voyez, l'idée de se lever du pied gauche parce que je suis à l'âge aussi, on a envie de transmettre et moi, enfin, voilà, j'ai la réputation d'être quelqu'un heureux, bon vivant. Enfin, c'est vrai que parfois le vin peut aider.
Ouais. Mais qui agace aussi parfois.
Ça peut agacer, normal parce que c'est vrai que je veux pas jouer les types malheureux parce que j'ai aucune raison. J'ai mes cancers comme tout le monde, j'en ai même régulièrement. Ouais, j'ai mes catastrophes, mes merdes, etc. Mais en
que
même
Dieu
temps,
nous préserve,
oui. Bah, enfin, moi, ça m'a pas préservé, mais je continue, j'avance et je me marre. Voilà. Et je pense que dans cette façon de vivre, il y a évidemment Dieu qui joue une part importante. Mais Dieu, c'est-à-dire la nature, le dieu de Spinoza.
Et franchement, France, encore les animaux. Alors, on sait que vous êtes végétarien, que vous ne mangez pas les animaux, que vous êtes antispéciste. Vous y allez encore une fois dans ce livre avec les animaux.
Oui, mais attention, je suis végétarien, je ne suis pas vegan.
C'est vrai. Bon, je vais me faire étrier. Je donne tout de suite mon adresse Facebook et Twitter, Emmanuel Kérad, comme ça vous pourrez vous défouler si besoin. Car vous faites un lien tout au long, François-Yves Gisbert, entre la protection des animaux, le fait qu'il ne faut pas les manger et la foi en Dieu. Or, Franz, dans la Bible, il est bien précisé que Dieu nous a mis à disposition des bêtes et de la végétation pour nous nourrir. On peut manger, je cite, tout ce qui est vivant, tout ce qui se meut, sauf les âmes, donc sauf les hommes.
Non, mais vous avez raison. Au Moyen-Âge, on considérait que les animaux avaient des âmes, les cochons, les sauterelles, etc. On les excommuniait. Non, mais on les condamnait à mort, même les porcs. Parce que les porcs, à l'époque, les porcs mangeaient beaucoup d'enfants. Mais donc, parce qu'ils avaient les dents, et puis ils se baladaient dans la rue, et quand il y avait un gosse de 4 ans qui se baladait tout seul, ils en faisaient vite leurs 4 heures. Et l'histoire des animaux, c'est très simple. Moi, je conteste ça. C'est pour ça que je suis pas dans les livres, comme on dit, parce que c'est la même chose dans le Coran. C'est exactement la même chose. C'est-à-dire que Dieu, il va créer l'homme. Enfin, après la femme, c'est moins important apparemment. Enfin, selon les.
Si
on regarde le texte, c'est incroyable. La femme à partir d'une côte de l'homme, c'est un scandale quand même. Je vais au but. Et après, il va créer les animaux pour que l'homme les bouffe. L'homme et la femme, bien entendu. Mmh. Mais ça, c'est une conception de l'univers atroce. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a fait de cette Terre ce qu'elle est aujourd'hui.
C'est-à-dire,
on est soi-disant au centre de la Terre. Vous avez vu ce qu'on en a fait?
C'est dans la Genèse.
Mais
Bible.
Mais moi, je suis pas là-dedans, du tout. J'y crois pas.
Mais si vous êtes croyant, mais attendez, vous pouvez
appliquer
ça. Mais
non, parce que ça va changer. La foi, elle change. Vous savez, Jean-Paul II et Benoît XVI, ils ont fait faire un virage absolument hallucinant à l'église il y a quelques années, sans que ça se voit, parce que les journalistes n'ont même pas remarqué. Mais c'est la réconciliation entre l'église, l'évolution, Darwin. C'est-à-dire, ils disent, oui, il y a une évolution, donc nous descendons du singe, enfin si on veut même de la crevette et du ver de terre.
Vous avez, c'est la réalité. En parlant de la crevette, vous avez une passion pour les poulpes.
Oui.
D'ailleurs, Philippe Forbrac et Antoine Pétrus pensent déjà au vin que l'on peut boire avec.
Ah non !
Manger des bras de poulpe, vous dites, c'est manger de l'intelligence.
Bah, vous savez que le poulpe, il y a un grand mystère du poulpe. Il y a une grande étude qui vient de sortir il y a quelque temps, qui montre que le poulpe, en fait, il y a un gros problème. Ça ressemble à rien de ce qu'on a sur Terre. C'est-à-dire que l'intelligence est partout. Le poulpe n'a pas de cerveau identifiable. C'est-à-dire quand vous coupez, vous mangez un bras de poulpe, il y a de la cervelle dedans. Voilà, c'est ça le mystère du poulpe. Donc il y a une théorie, d'ailleurs, qui progresse tout le temps, qui dit que ça viendrait, ce serait d'une origine extraterrestre. C'est-à-dire, parce que vous savez, il y a parfois de la flotte sur les comètes, les météorites qui passent. Non, mais attendez, relisez vos trucs, lisez ce qui se passe aujourd'hui dans le domaine astronomique. On c'est complètement dingue.
Mais restez sur le poulpe.
Mais non, mais je reste
sur le poulpe. On peut manger les extraterrestres peut-être.
Non, ce qu'il y a, c'est que sur le poulpe, ça fascine beaucoup de scientifiques.
Oui, c'est vrai.
C'est-à-dire qu'il meurt à 5 ans en général.
Et heureusement,
il progresse, heureusement, parce
sinon
que
il nous dominerait.
Jusqu'à 60 ans, il est vraisemblable qu'il serait plus intelligent parce qu'il progresse très vite, il apprend très vite et il emmagasine dans un cerveau qui, je répète, est partout, jusque dans les tentacules.
C'est vrai. Alors du coup, comme vous vivez en partie à Marseille, France, vous allez sur le marché aux poissons du Vieux-Port pour acheter tous les poulpes vivants. Enfin, et les rejeter
quand
à
ils sont vivants, attention.
Oui. Alors, on vous demande, est-ce qu'on vous les vide, monsieur? Et vous dites, surtout pas.
Mais surtout, ça les amuse, ça les fait marrer. Les poissons, ils adorent ça. Parce qu'ils se disent, peut-être qu'on va les repêcher demain et puis on va les revendre après, ce couillon-là. Oh, le pauvre.
Oh, le pauvre. Allez, couillon, les libraires. Se dire. Vous êtes prêts avec les libraires?
Toujours.
Ils sont pas toujours,
Oh, oui, mais ça. Non, mais heureusement qu'ils sont là. Moi, vous savez, j'ai mes lecteurs. C'est le plus important, ce sont les lecteurs.
Le Canada, la France ou la Belgique, on commence par qui? Allez-y.
Ça va être horrible dans les trois cas ou je prends le plus sympa tout de suite. Le Belge, allez.
Le Belge, c'est la plus gentille.
Bah oui, forcément.
Elle est toute douce. Déborah Bamblon, que pensez-vous du livre de France?
Eh ben, je pense que parler de Dieu, c'est quelque chose d'extrêmement personnel. C'est un petit peu impudique. Donc pour moi, ça a été une étrange lecture, entre curiosité de découvrir ce que vous aviez envie de partager, et puis gêne un petit peu d'être là où je voulais pas vraiment me trouver. Mais aussi une forme d'émotion, parfois devant votre envie tellement forte de nous convaincre, peut-être de vous convaincre.
Ah non, mais je suis convaincu, Ah, je suis complètement enragé là-dessus. Et d'ailleurs, je vais vous dire, j'ai eu aucun problème d'enquête et rien, c'est tout ce que je pense, c'est tout ce que je sais, vous avez raison. J'ai balancé comme ça, avec une grande impudeur, parce que je crois que là, il y a une part d'impudeur dans la foi.
Thomas Auxerre, pour la France.
Alors oui, du coup, moi, ça s'est un petit peu malheureusement mal passé pour moi.
Ils osent pas, ils osent pas charger.
Non, j'ai tellement l'habitude. Et en plus, je vais vous dire, je m'en fous.
Parce que ils sont bienveillants, ils sont gentils.
Non, mais c'est mécanique. C'est-à-dire, moi, quand j'arrive, de toute façon, j'ai toujours des gens, mais c'est normal. Et je vis avec ça, c'est très bien.
Allez-y, Thomas.
Si vous voulez, moi, France, c'est pas dans mes habitudes de dire ça, mais là, je dois avouer que j'ai pas été touché par le livre. Peut-être que c'est trop intime pour moi de parler de votre foi. Il y a aussi votre rapport transcendantal au monde qui m'a pas trop touché. Alors, on sent quand même le ton taquin et espiègle, on le sent bien. J'ai eu quand même un petit peu de mal dans la lecture. Peut-être que c'était un petit peu trop personnel pour que ça me parle.
Mais je me disais au départ, c'est vrai que j'ai écrit un peu contre l'époque.
Josiane Letourneau.
Contre le nihilisme qui est sur 20e siècle. C'est un siècle très nihiliste.
Allez-y, Josiane. Parce que sinon, ça sera...
En fait, de mon côté, je sens incontestablement cette joie avec un grand J, puis une vive conviction dans chacun de vos mots. Mais c'est peut-être cette même joie qui semble presque sans partage qui m'a un peu refroidie, je dirais. Paradoxalement, je me suis sentie un peu décalée. Mais c'est définitivement le livre d'un homme qui n'a pas peur d'assumer totalement sa foi et ses idées.
Oui, courageux.
Alors, vous savez, on demande toujours aux croyants d'apporter la preuve de l'existence de Dieu. Je vais vous demander, madame, la preuve de la non-existence de Dieu.
Moi, je suis croyante. Si on y va dans ce terrain-là, c'est juste que je suis une croyante qui doute.
Eh oui.
Par moment.
Ouais. Mais là, il doute plus, la France. Non, parce que tout pas, est dans l'amour, pas, mais Olivier Gisbert.
Et chaque catastrophe, on repasse. Et enfin, je veux dire, ce qui ne vous tue pas vous renforce, comme disait Nietzsche. Et je veux dire, chaque catastrophe, et voilà, on passe et la vie recommence le lendemain matin.
Vous expliquez que tout est dans l'amour, qu'on peut voir Dieu en l'autre. L'amour pour quelqu'un, notre connexion avec l'autre, parfois troublante d'ailleurs, c'est un signe de Dieu pour vous.
Ah oui, bien sûr.
C'est ça. Mais,
parce que Dieu est partout, je le répète. C'est-à-dire, je suis spinozien et je vis ce spinozisme chaque seconde qui passe, d'où le panthéisme, d'où le végétarisme aussi, parce que voilà. Et puis, les animaux sont mes amis et je ne mange pas mes amis, comme disait l'autre.
Vous citez Tolstoï qui disait « Tout raisonnement sur l'amour le détruit ». Vous donnez aussi adresses pour rencontrer Dieu. La musique, qui peut être une porte d'entrée pour rencontrer Dieu. Bien sûr. Une musique, notamment, que vous adorez. Écoutez.
I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world.
Une bonne marche dans la nature, en Provence par exemple, sur les chemins de Toulon où vous allez ou de Marseille, avec cette musique dans un casque, c'est le bonheur absolu et c'est la rencontre de Dieu pour vous, François-Olivier Gisbert.
Est-ce que c'est la rencontre ? La rencontre, c'est quand il passe ou à la limite qu'il vous traverse, vous voyez ce que je veux dire ? Mais sinon, il est là tout le temps. C'est ça qui est formidable. C'est le sens de mon message. Moi, je suis à l'âge, vous savez, on a envie de transmettre. Et c'est vrai que mon côté joyeux, heureux de vivre, etc. Je sais bien, depuis très longtemps, ça énerve. J'ai évidemment beaucoup d'ennemis. Je le sais. Et j'avais envie d'appuyer bien fort là-dessus parce que je pense que j'aimerais bien que beaucoup de mes proches, mes enfants aussi, soient aussi heureux que je peux l'être. Voilà. Qu'on a tous nos dépressions. Hein, mes dépressions à moi, elles durent 5 minutes.
On va terminer.
C'est un peu une leçon de vie, voilà.
On va terminer avec cette citation de Confucius. On a deux vies et la deuxième commence quand on se rend compte qu'on n'en a qu'une.
Eh oui.
Merci François-Olivier Gisbert. La dernière fois que j'ai rencontré Dieu est parue chez Gallimard. Une petite idée cadeau pour terminer, c'est vous qui concluez.
Oh, bah alors, deux livres comme ça. C'est un livre très grave, tragique. Le Lambeau de Philippe Lançon. Oui. C'est un chef-d'œuvre. C'est un livre absolument superbe. Il raconte cette espèce d'itinéraire personnel après l'attentat de Charlie Hebdo. Ça, c'est un très beau livre.
Magnifique, oui.
Si la personne en question à qui on a envie d'offrir est un peu triste en ce moment, moi, je proposerai les derniers livres de François-Régis Gaudry. Alors, il paraît qu'il n'en a pas fait cette année, là.
Sur la cuisine.
Oui, sur la cuisine. C'est un peu dommage. On attend le prochain, mais de toute façon, je ferai les précédents.
Hein, et puis voilà. Le vin.
Chez Schéma. Oui, puis je vais offrir celui-là. Voilà. Très bien aussi. Il a l'air formidable.
Bon, merci beaucoup, France. Merci à vous.
Merci, Vance.
La librairie francophone. Emmanuel Kérad.
Avant de conclure, coup de pouce à une découverte musicale francophone. Voici le groupe de hip-hop français Columbine avec un extrait de Puzzle.
Interprété, théâtre raté. Conscient, j'accuse, porno sans sucre. Salade de peur, j'atteins, je meurs. En garde à vue, au fond du cœur. H24 au bord, falaise. Les gendarmes en caoutchouc. Révolution, pomme d'amour. Offrir fleurs, réveil en sueur. Écran d'accueil au paradis. Moteur de recherche des sentiments. Rire à nos drames plus gentiment. Orgasme, erreur, retard, des pleurs. Nouvelles insultes à inventer. Au bonheur de la maladresse. J'ai cru en moi dans la paresse. J'ai joué des femmes qui tuent des hommes. Sérigraphie, mes idées folles. Patinage sur eau de mer. Au bal masqué, robot de verre.
Touch the love of the city on a paper.
Mind avec Puzzle, titre que vous pouvez retrouver en intégralité sur Internet. Et c'est la fin de cette édition. Je vous retrouve sur Facebook et Twitter, donc pour communiquer avec vous. Merci Natacha Apana.
Merci.
Merci Philippe Forbrac, Antoine Pétrus. À très
merci.
Bientôt. François-Olivier Gisbert, merci à vous. À la réalisation, Marilène Fauquet et Fabrice L'Aigle, avec Julien Dumont à la technique, Thierry Dupin à la prog musicale. À la rédaction, Jean-Philippe Véret avec Christophe Magère en France, Annick Chouin et Madeleine Techer en Suisse, René Mikils avec Valérie Lepute en Belgique, Jacqueline Castonguet et Sylvie Julien au Canada. La semaine prochaine, juste avant Noël, d'autres idées cadeaux dans une librairie avec un libraire, de l'humour avec l'humoriste canadien Rachid Badouri et l'artiste belge Philippe Geluck et l'écrivain Incoli Jean Beaufan. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Bonne semaine, bon week-end.
Le 7 janvier 2015 a lieu un événement terrible, l'attentat contre Charlie Hebdo. Dans la salle de rédaction, parmi les victimes, Philippe Lançon est l'un des rares survivants. Sans détour et le plus intimement possible, Philippe Lançon raconte cette histoire de la veille de l'attentat jusqu'à sa longue reconstruction. C'est grâce au personnel hospitalier, à la musique, à la littérature, qu'il retrouvera goût à la vie. Le Lambeau de Philippe Lançon est un récit qui nous concerne tous, celui d'une traversée personnelle et collective. Prix Femina et prix spécial Renaudot, Le Lambeau de Philippe Lançon, aux éditions Gallimard.
Vous entendez ce bruit ? C'est Fatou qui bêche le seul lopin de terre qui lui reste, après avoir été expulsé par une multinationale. Là, ce sont des tronçonneuses qui détruisent les ressources naturelles et aggravent encore la faim dans le monde. Et là, c'est le bruit de mon stylo qui fait un chèque au CCF des Terres Solidaires pour que demain, chacun mange à sa faim. Pour lutter contre la faim, tout le monde peut faire un geste. Donnez sur ccfd-terresolidaires.org. CCF des Terres Solidaires. Tous humains contre la faim.
Il paraît qu'à Noël, on se pardonne tout. Bien sûr. Bon, de toute façon, ce qui compte à Noël, c'est les chocolats Jeff de Bruges. Raffiné, fondant, onctueux, à partir de 11,10€ le ballotin. Jeff de Bruges, tout l'esprit de Noël dans un chocolat de qualité.
Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés.
Et la librairie francophone sera rediffusée à 1h du matin avec le bonus créole à suivre toute l'équipe de Comme un bruit qui court. France Inter, 16h en métropole, 5h à Tahiti.